What if you could learn more about your health in under an hour? The Pronuvo Whole Body Scan gives you a comprehensive look at your health, screening for over 500 conditions, including many solid tumors as early as stage one. High-quality imaging, no radiation, no contrast. Book your scan today at Pronuvo.com. That's Prenuvo.com. Gain clarity, confidence, and peace of mind with Pronuvo. Invest in your health today. Visit Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1.
Medications require eligibility and prescription. Patients on 15 milligrams of tirzepatide had an average of 21% weight loss in a 72-week clinical trial when paired with diet and exercise. First month as low as $25 with a 12-month MedPlus plan. Does not include the cost of GLP-1 medications.
Section 14 de La Science et l'Amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Chapitre 5. Les rameaux. Nous avons reçu de Pierre ce matin une lettre ainsi conçue. De grandes choses se préparent. Tandis que dans vos églises, vous fêterez l'entrée de Jésus à Jérusalem sur une route jonchée de palmes et de branches vertes, dans la plaine semée de cadavres et de troncs d'arbres, sans branches ni palmes, nous chasserons la bête qui souille notre terre de France. Que vos âmes en prière soient étroitement unies aux nôtres. Ma pensée aujourd'hui n'a point quitté nos chers soldats. C'est pour eux l'heure douloureuse du calvaire, mais ils auront bientôt l'heure enivrante de l'entrée triomphale dans la ville que sut défendre la Vierge Geneviève. En attendant, soyons, nous les étudiantes de la Montagne Sainte, des gardiennes de la cité. Maintenons notre cœur pur, notre âme forte et notre intelligence claire. Ce matin, tandis que je priais de toute mon âme dans notre vieille église Saint-Jacques, exaltée par une sorte d'enthousiasme mystique, j'ai vu tout à coup, comme dans un rêve, Jacques, agenouillé dans une autre église, celle de Geneviève, à Saint-Étienne-du-Mont. Un amour d'une force, d'une richesse infinie, nous emportait tous deux. Jamais je ne m'étais senti si près de lui, et pourtant si près de Dieu. Jamais je n'avais mieux compris l'amour. Ce rêve me semble prophétique. Pourquoi ne le réaliserais-je pas? Il suffit pour cela de le communiquer à Jacques. Par un mot, par une simple suggestion. Et sans hésiter, je viens de transcrire pour lui cette page de mon journal en ajoutant cette phrase. Je serai jeudi 5 avril à la messe de 7 h à Saint-Étienne-du-Mont pour fêter la scène, le banquet de l'amour. Voulez-vous y prendre part? 2 avril. Après la route semée de palmes, c'est le ciel semé d'étoiles. L'Amérique entre en guerre et se fait le champion du droit de l'idéal. Salut aux étoiles. Jeudi saint, 5 avril. J'étais bien émue ce matin, lorsque je m'éveillai au petit jour. À peine avais-je repris conscience que je me suis posé l'angoissante question « Jacques viendra-t-il ou ne viendra-t-il pas ?» Tout en m'habillant, tout en faisant ma chambre, mon esprit brodait sur ce thème les réponses les plus contradictoires. Ma raison me disait qu'il ne viendrait pas, et même souhaitait qu'il ne vînt pas, car une conversion si rapide n'était point sage, mais ma sensibilité me disait tout le contraire, car elle croyait au miracle qu'opère l'amour. D'un pas rapide, je montai la rue Soufflot, saisi et étourdi par l'air frais du matin. La rue était encore déserte, et je pouvais, sans être distraite, suivre ma pensée qui habitait déjà là-haut dans la vieille église. Lorsque j'eus gravi les marches de pierre, sans hésitation, le cœur haletant, je suis allé tout droit à la chapelle de Sainte-Geneviève, avec la certitude que j'y trouverais Jacques. Hélas, je m'étais trompé, il n'était point là. Mon espérance était déçue, et ce fut un vrai déchirement. Je m'agenouillai alors, la tête dans les mains, espérant par la prière calmer ma peine. Des larmes abondantes coulaient sur mes joues, silencieusement. Tout à coup, je sentis une main se poser sur mon épaule. Je tressaillis et me retournai. Jacques était derrière moi. Le choc fut si brusque que je n'en ressentis d'abord aucune joie. Sa figure, d'ailleurs, n'exprimait point la paix joyeuse. Elle était tourmentée. Certes, en venant, il m'avait fait un grand sacrifice. Irait-il jusqu'au bout? M'accompagnerait-il jusqu'à la table sainte? Je l'observais au lieu de prier. Il regardait obstinément la châsse d'or où reposaient les reliques de Geneviève. Des cierges tout autour la faisaient étinceler. De l'autre côté, sur le grand autel, le sacrifice achevait de se consommer. C'est l'heure de la communion. La foule s'ébranle. Moi-même, je quitte ma place sans rien dire, étrangement troublé. Tout à coup, un pas s'attache au mien. Je le reconnais. C'est celui de Jacques. Et aussitôt une joie infinie détendit mon être tout entier, le soulevant dans une véritable allégresse. À côté de moi, à genoux, Jacques communiait au divin dans un bel acte de foi. Dieu avait consacré notre amour, il était garant du lien qui maintenant unissait nos deux âmes. Samedi saint, 7 avril. Nous vivons des heures graves, jamais semaine sainte ne fut plus tragique. L'ensevelissement du Christ est cette année symbolisé par celui de Reims. 7500 obus tombés en 2 jours sur la ville martyre. On entend partout de vagues rumeurs d'offensives. Nous n'avons plus de nouvelles de Pierre et Philippe semble fort soucieux. À midi pourtant, les cloches ont sonné, leur voix n'a point changé, elles proclament toujours avec la résurrection du Christ le salut du monde. Pour les chères petites, elles annoncent tout autre chose. Elles annoncent la venue d'autres cloches qui leur sont chères, les cloches en chocolat. Maman et moi, nous les avions oubliées, et il a fallu leur frimousse malignement éveillée pour nous rappeler que leur âge ne devait point partager nos angoisses. Aussi cet après-midi, j'ai couru avec Philippe aux emplettes. Nous manquions d'entrain. Une seule pensée nous obsédait. Reims et sa cathédrale, l'offensive et notre cher soldat. Tandis que nous traversions le pont des Arts, Notre-Dame attira nos regards. Elle apparaissait inquiète, mystérieuse dans ces lignes fines qu'une légère brume rendait indécises. Sans nous consulter, nous nous sommes arrêtés ensemble à la contempler, accoudés au parapet. Tout à coup, des cris d'enfants, des voix de femmes commandant une manœuvre nous obligèrent à baisser les yeux. Un lourd chaland glissait lentement, laborieusement sur l'eau grise. Toute une famille grouillante s'agitait sur le toit de la cabine en planches. Un chien était couché devant la porte basse, comme devant une niche dont il gardait l'entrée. La lourde cheminée du convoi, avant de s'engager sous le pont, s'affaissait doucement. « Voilà la France d'aujourd'hui en travail, » me suis-je écrié, « avec la femme et l'enfant, et là-haut, c'est son âme en prière qui veille. Comment ne serait-elle pas sauvée ?» Et nous avons repris, d'un pas plus rapide, notre route le long du boulevard du Palais. Quelle ne fut pas ma surprise, lorsque, tournant par hasard la tête du côté de ce vieil édifice, je vis Jacques descendant les marches du grand escalier. Il nous avait reconnus et se hâtait de nous rejoindre en nous faisant des signes. « Attendons, Jémy, » m'écriai-je en prenant Philippe par le bras. « Le voilà qui vient à nous. Peut-être nous apprendra-t-il quelques nouvelles. » Nous fîmes halte et Jacques nous eut bientôt rattrapés. Il paraissait joyeux. Il me serra même la main avec une énergie qui me parut pleine de promesses. « À quand l'offensive? Savez-vous quelque chose, Jémy ?» s'écria Philippe. « On parle du 16 au matin, mais rien n'est encore décisif, ou plutôt, personne ne sait rien. Quant à ce qui me concerne, je sais quelque chose. Les ajournées de ma classe repassent devant un conseil. D'ici quelques jours, je serai donc fixé sur mon sort, et qui sait, sergent Astier, j'irai peut-être au feu sous vos ordres. » Puis, se tournant de mon côté, il ajouta « Qu'en diriez-vous, mademoiselle ? Je dirai que c'est bien, et je prierai Dieu pour vous deux. Dès que je saurai quelque chose, je viendrai vous porter la nouvelle. Voulez-vous à la fin de la semaine prochaine, s'il y a du nouveau ? C'est cela, samedi prochain, reprit Philippe. Je serai ravi de saluer le futur soldat et de donner au petit bleu les conseils de l'ancien. » Et Jacques nous a quittés, me laissant le cœur réchauffé comme par un rayon de soleil. Enfin, j'allais pouvoir penser à lui avec enthousiasme, avec orgueil. Son âme vibrait à l'idée du sacrifice. Elle était généreuse, noble, élevée. Je pouvais sans remords lui donner toute la mienne. L'union se faisait sur un même plan, très haut. Je n'aurais plus à déchoir pour aller jusqu'à lui, et nous pourrions, au contraire, monter ensemble vers un même idéal. Mon cœur maintenant ne redoute plus l'avenir. Quel chemin parcouru depuis 8 jours! Jacques avait grandi à mes yeux de 100 coudées. Je le voyais capable de renverser tous les obstacles. Dimanche, Pâques. Nous avons trouvé ce matin, en revenant de la messe, une lettre de Pierre. Il est encore au repos et attend, très calme et plein de confiance, la grande attaque. Ce fut comme une halte dans notre angoisse qui me permit de goûter, sans trop de remords, la joie qui débordait de mon cœur. J'éprouvais d'ailleurs un tel besoin de la faire partager que je me mis en route, aussitôt ma besogne terminée, pour aller trouver Mademoiselle Claire. Je ne fus pas longue à gravir les 5 étages, et Marie eut beau m'annoncer qu'il y avait beaucoup de monde, je n'en fus nullement contrariée. J'acceptai d'avance tous les sacrifices. C'est si facile lorsque l'amour chante en vous son hymne d'espérance. Je pénétrai dans la salle à manger. Tout un groupe de bonnes camarades s'y trouvait réuni. Il y avait Betty, Germaine, Alice, Marie le Sage. La porte ne tarda pas à s'ouvrir et Mademoiselle Claire entra. Nous avions chacune un bouquet de fleurs à lui offrir. En un instant, ses bras en furent chargés. Elle souriait au milieu des fleurs et s'écria « Mais vous vous êtes donc donné le mot aujourd'hui pour me faire des Pâques fleuries? En temps de guerre, c'est un luxe qui n'est pas permis. Que j'ai de joie à vous voir ainsi tout autour de moi. Mais venez, entrez ensemble. Personne n'a besoin d'audience particulière aujourd'hui. C'est jour de fête, jour d'espérance, au milieu de tant de tristesse. Ma petite Betty, je sais ce que vous souffrez. Nous souffrons toutes avec vous, lui dit-elle en lui serrant la main. Et pendant près d'une heure, nous échangeâmes nos idées, nos sentiments, avec une délicieuse liberté. Pourtant, il fallait songer au départ. Je fus la première à me lever. Mademoiselle Claire trouva le moyen de retenir les autres pour m'accompagner seule dans l'antichambre. Dès qu'elle eut refermé derrière elle la porte de son cabinet, je lui sautai au cou en lui murmurant tout bas. « Je suis heureuse. Il a fait ses Pâques. Il est plein de courage. Il va partir pour le front et nous allons être officiellement fiancés. » Ma sensibilité enthousiaste réalisait toute cette histoire. Ce soir encore, je n'éprouve plus aucune tristesse. J'ai foi. Mon Dieu, que ce ne soit pas un rêve de mon imagination exaltée, de mon cœur trop prompt à s'émouvoir, à espérer. Jeudi 12 avril. L'atmosphère est de plus en plus chargée de nuages. Le front de papa ne s'éclaircit plus. Maman prolonge ses stations à l'église. Moi-même, je sens ma belle confiance s'en aller. J'ai toujours foi en Jacques, mais je redoute cette entrevue de samedi. De toute la semaine, il ne m'a pas donné signe de vie. Pourquoi ? 13 avril. Mon courage tombe petit à petit. Sans doute l'angoisse de l'offensive attendue étreint mon cœur, comme celui de toute la France, mais il s'y ajoute autre chose. Je crains d'avoir rêvé trop beau, car j'approche du réveil. Demain, je verrai Jacques. Demain, je saurai vraiment ce que je puis espérer. 14 avril. Il n'est pas venu. Je n'ai pas reçu le moindre mot d'explication. J'ai passé toute ma soirée à l'attendre, dans une inquiétude folle, prêtant l'oreille au moindre bruit. Pendant 2 heures, j'ai souffert ainsi d'une souffrance stupide, inutile, résultant d'une sensibilité trop vive qui exaspère encore ma vie d'intellectuel à laquelle manque le contrepoids de l'expérience. Philippe, ce soir, pendant le dîner, brusquement s'est tourné vers moi et m'a dit « Tiens, Jémy n'est point venu aujourd'hui. » Je parierais que son conseil de révision est encore remis. C'était une fausse alerte. Tant mieux pour lui. Cela me ferait de la peine de le voir jeté dans la mêlée. Il n'est pas de taille à faire la guerre, celui-là. Eh bien, moi, je le regrette, repris-je vivement. La guerre l'aurait taillé à sa mesure en lui donnant l'énergie qui lui manque. Philippe me regarda tout étonné. Le ton, la manière de ma réponse pouvaient trahir mon émotion. Je ressentais un très grand trouble intérieur, en effet. J'étais reprise par mon horrible soupçon. J'accusais Jacques de faiblesse, presque de lâcheté. Il tardait trop à parler à son père. Il attendait que les événements fissent jaillir en lui la volonté, tandis que son amour aurait dû lui donner la force de les prévenir. Lundi de Quasimodo, 15 avril. L'offensive est déclenchée, et nous avons repris nos cours ce matin même. J'ai retrouvé Jacques. Il n'a pas essayé de se défendre. Je ne pars pas pour le front, m'a-t-il dit simplement. Je suis versé dans un service auxiliaire. Alors je n'ai pas parlé à mon père. À quoi bon le faire dans des circonstances aussi banales? Il ne m'eut pas écouté. Son découragement est profond. Je l'ai senti et n'ai pu lui faire aucun reproche. Le mien est tout aussi douloureux, mais il faut qu'il se taise. La souffrance commune est trop grande en ce moment pour que nous ayons le droit d'écouter notre propre souffrance. 18 avril. Elle va se continuant avec moins de violence, la grande bataille, et l'ennemi n'est point encore repoussé. D'autres foyers s'allument sur le front britannique, mais peu importe. Il faut regarder la situation en face, avec sérénité. Il n'y a que demi-succès. Quelle est donc cette force formidable qui résiste à tant de merveilleux courage? Lutte de la matière contre l'esprit, de la force brutale contre la force idéale. Cette dernière sera donc toujours vaincue? Et voici que cette pensée me remet en face de ma propre expérience. Oui, moi aussi je n'ai remporté qu'une demi-victoire. Qu'ai-je obtenu de Jacques après son effort religieux trop précipité? Un demi-vouloir que le premier obstacle a brisé. Son âme ne s'est pas assez ouverte pour que Dieu, par la grâce de sa force divine, ait eu vraiment prise sur sa volonté. Jeudi 3 mai. Ciel bleu au dehors comme au dedans. Aussi ai-je négligé mon journal. Nous travaillons avec rage. Betty a eu la bonne idée de faire le partage des auteurs du programme. Chacune prépare donc le sien et apporte aux autres le résultat de ses recherches. C'est une économie de temps et un grand stimulant. La nature est enivrante. C'est la vie qui partout déborde. Elle déborde aussi en moi. Jacques, rasséréné, s'est ingénié à me faire comprendre qu'au milieu de notre travail intense, nous aurions besoin d'une détente. Une promenade au bois de Boulogne, de temps en temps, remplacerait avantageusement une séance à la bibliothèque. Je me suis laissé faire. J'ai cédé. C'est le nouveau régime. Il réussit à merveille. Quelle heure d'exquise liberté. Nous avons erré partout à l'aventure, humant avec délice l'air embaumé, échangeant dans les coins solitaires quelques baisers rapides que l'on se donnait par surprise, comme deux enfants, heureux de s'aimer et de vivre, sans contrôle, au sein de cette nature de mai si riche, si belle, qui semblait nous sourire et nous encourager. Ce soir, je me sens tout autre. Un sang plus chaud coule dans mes veines, mon cœur bat joyeusement. Je voudrais chanter un hymne à la vie, à la nature que j'adore en païenne, mais alors je crains d'oublier Dieu et la guerre, et mes frères. Philippe part dans quelques jours. Comme il est difficile de tout concilier, le devoir et la joie de vivre. Samedi 12 mai. Philippe nous a quittés ce matin. Il laisse un grand vide dans la maison. Papa et maman n'arrivent pas à dominer leur tristesse et les petites mêmes ont une expression de gravité inaccoutumée sur leur frimousse d'enfant. Après dîner, je suis restée auprès de papa à essayer la partie d'échecs qu'il aimait à faire avec Philippe. Philippe se passionnait à ce jeu, il y trouvait tout l'intérêt d'une bataille. Je n'ai pas pu me passionner, n'ayant aucune aptitude de stratège, mais j'ai donné au jeu toute mon attention joyeuse, ce qui a fait que, pendant un instant, papa a oublié son fils absent. J'ai perdu du temps, mais je l'ai consolé. Lundi 14 mai. Notre travail avance à grands pas. Qu'on ne vienne plus me dire maintenant que l'amour est égoïste. Tout au contraire. Il nous dilate l'âme au point que nous pouvons tout aimer, même l'austère devoir. Pourquoi aussi nous le refuser à nous, les intellectuels, sous prétexte que nous manquons de sensibilité, que nous avons trop d'orgueil, parce que nous ne voulons pas d'un amour qui abaisse, qui nous ferait esclaves ou servantes d'un homme qu'un jour nous n'aimerions plus parce qu'il nous aurait abaissés. Notre orgueil est de la dignité. Notre cœur veut admirer. 17 mai, Ascension. Je ne sais s'il est sage d'être contente ou non. Je ne peux plus juger, car ma sensibilité est maîtresse, mais elle ne souffre pas. Le remords ne se lève pas dans mon âme inquiète. Deux longues heures, il est resté près de moi, car j'ai cédé à ses instances de le recevoir de nouveau chez nous. La fenêtre large ouverte nous apportait beaucoup de clarté. Un vent tout chargé de parfums du printemps et surtout plein de vie, de promesses. Nous avons essayé de disserter philosophie, tout en prenant notre thé, en fumant des cigarettes. Une seule philosophie nous intéressait. Nous étions l'un près de l'autre et l'ivresse de cette présence nous faisait tout oublier hormis l'amour. Jacques, sans rien dire, s'est fait doux, soumis, épiant mes désirs de manière à ne point les dépasser, et j'ai répondu à sa douceur par ma tendresse. Un rêve où tout est indécis, mais harmonieux, et dont l'indécision fait tout le charme, nous a bercés tous deux. Je le continue encore ce soir dans ma petite chambre chargée de souvenirs. Je me sens incapable de faire un effort intellectuel, je ne le désire pas, ce serait interrompre cette douce mélodie qui se joue en moi et dont je ne veux pas perdre une note. 20 mai. Je voulais aller voir la lampe ce matin et je ne sais pourquoi je n'y suis pas arrivée. Il me semble que, si j'examine bien, je reconnaîtrai que je ne l'ai pas voulu vraiment. Voyons, j'étais libre à 9 heures, les petites pouvaient parfaitement se passer de moi pour leur toilette. Maman était d'ailleurs revenue assez tôt de la messe pour me remplacer. Je me suis donc tout simplement menti à moi-même, et je rougis ce soir de mon insincérité. Je redoutais un blâme de notre chère lampe si je lui avais dit dans le détail ce qui se passait. Alors, plutôt que de mentir ou de me taire, j'ai cherché des prétextes pour m'abstenir de paraître devant elle. C'est mal, et pourtant c'est permis d'aimer, et d'aimer à être aimé, pourvu qu'on reste dans l'ordre. Jeudi 24 mai. Grande joie au logis. Philippe est définitivement versé dans l'auxiliaire. Le voilà établi garde-côte à Fécamp. Il rêvera la nuit à la belle étoile, mais sans risquer les balles. Et Pierre nous arrive en permission. L'atmosphère est de nouveau toute changée dans la maison. Pentecôte, 27 et 28 mai. Pierre mérite bien que je lui sacrifie Jacques. Il est si grand maintenant que les jours terribles de l'offensive d'avril ont passé sur lui sans l'ébranler. Oui, je me sens à côté de lui, prise d'une étrange émotion. Je pense à ce que doit être l'amour quand on le ressent pour un être fort comme lui, un être d'élite. Ce doit être la béatitude, c'est l'amour qui dure car on a sans cesse de nouvelles raisons d'aimer. C'est l'amour qu'il nous faudrait à nous, les passionnés, les enthousiastes intellectuels. Et moi, j'aime un faible, un tendre, un délicat. Voilà pourquoi j'ai beaucoup souffert. Voilà pourquoi je souffrirai peut-être encore beaucoup. Mais j'accepte d'avance ma souffrance, en l'offrant à l'esprit dont c'est en ce jour la fête, afin qu'il nous éclaire pour son plus grand bien à lui. Fin de la section 14. Enregistrée par Pauline Latournerie. Section 15 de La science et l'amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. 4 juin. Les vacances de la Pentecôte, auprès de Pierre, que la guerre a vraiment mûri, au point que je me sens auprès de lui une toute petite fille, ont apporté un peu d'apaisement dans ma vie de fièvre. Je me suis ressaisie, mais pas assez pour ne point craindre que le courant de sentiments qui m'entraîne ne me reprennent de nouveau. On a beau dire, la vie intellectuelle surmenée que je mène en ce moment n'est point un contrepoids à la vie affective, elle en permet, au contraire, toutes les brusques réactions. Du reste, Jacques ne se laisse pas oublier. Je reçois un mot de lui tous les jours. Il parcourt mes notes, il est enthousiasmé. Il monte vers l'idéal avec moi sur les ailes de Platon, m'écrit-il, son amour est toute admiration. Est-ce dans l'ordre? Et les rôles ne sont-ils pas renversés? Mais à quoi bon revenir sur ces mobiles de l'amour? J'aime Jacques, et il m'aime. Ne tuons pas l'amour à le vouloir trop analyser. 5 juin. Il faut tenir conseil aujourd'hui à la sortie du cours. J'ai une importante communication à faire, me dit Germaine en venant au-devant de moi dans la cour carrée de la Sorbonne. Nous nous retrouverons dans la galerie des lettres, n'est-ce pas? Après le cours, personne ne manqua à l'appel. Curieusement, nous nous demandions quel pouvait bien être ce fait nouveau qui, à la veille d'un examen, nécessitait une délibération de notre petit groupe. « Dans 3 semaines, mes amis, » a commencé Germaine, « nous serons au combat. Sommes-nous prêts et pouvons-nous tranquillement envisager l'épreuve en nous disant « il n'y a pas de surprise possible, notre programme est vu ?»« Mais certainement, » reprit Alice, « les auteurs sont étudiés, les notes sont prises, il n'y a plus qu'à se les communiquer. » Pour l'histoire de la philosophie, j'admets la chose, mais notre cours théorique est-il complet? Avez-vous pensé à la morale? Elle est au programme, et, sauf 2 ou 3 cours de sociologie, personne n'en a soufflé mot.
C'est vrai pourtant, fit Betty, mais ce n'est pas notre faute. On ne peut tout de même pas nous interroger sur une matière qu'on ne nous a pas enseignée, et puisque notre éminent maître de sociologie a quitté ce monde, on ne nous demandera pas de communiquer avec son esprit dans un au-delà auquel il ne croyait pas.
Cela ne m'étonnerait pas, reprit Jacques en secouant la tête. Au philosophe, tout est possible, par l'intuition. Et il me lança un petit regard malin qui m'amusa beaucoup.
Mais voyons, soyons sérieux, ajouta-t-il. C'est un fait que la morale figure au programme et que nous n'en avons pas discuté une seule question. Depuis qu'il y a une esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, un essai sur la physique des mœurs, la morale n'est qu'un mot. Et pourtant, qu'auraient fait nos soldats dans les tranchées s'ils n'avaient eu comme idéal moral que le fait social pressant sur eux ou comme mobile d'action que le besoin d'expansion de vie à la Guyot? Je crois qu'au premier shrapnel, ils auraient déguerpi en grande vitesse à l'arrière.
Cette réponse de Jacques me mit l'âme en joie. Le voilà qui tout doucement abordait à mon rivage en épousant mes idées. L'union se faisait sur un autre plan maintenant. Germaine était ravie d'avoir amorcé une discussion dont elle allait avoir le dernier mot.
« Eh bien, mes amis, déclara-t-elle en coupant la parole à Jémy, ce cours de morale qu'il nous faut, je l'ai en main, et il dépend de moi de vous le communiquer.
Oui, voici son histoire. Un de mes amis, ancien élève d'Henri IV, mobilisé de la Grande Guerre, était descendu par hasard durant sa dernière permission à ma pension de famille. Il s'est trouvé que nous avons maintes fois discuté des événements et de leur portée morale. Un beau jour, il me questionna sur la couleur de notre enseignement de la morale en Sorbonne. Quel ne fut pas son étonnement d'apprendre que cet enseignement était néant et que nous en étions réduits touchant cette matière à nos souvenirs de bachelière. Il me proposa alors un cours inédit dont il avait gardé précieusement les notes et qu'il avait eu l'heureuse fortune de recueillir de la bouche du maître Bergson. J'acceptai sa proposition avec joie et depuis je copie chaque soir avec émotion ces précieux documents.
Ah, mes amis, il y a là tout ce qu'il nous faut. C'est un essai sans doute, mais où il y a des directions, où l'on se sent à l'aise, un essai qui fait penser, qui ne rompt pas brutalement avec la tradition pour ne rien remettre à la place, mais qui, au contraire, cherche à concilier cette tradition avec l'esprit moderne, avec la science d'aujourd'hui et peut-être celle de demain, car l'auteur est un savant en même temps qu'un philosophe.
Et Germaine continua sur ce ton avec un tel enthousiasme que je compris le phénomène qui s'était produit en elle. En effet, depuis quelque temps, elle avait retrouvé son équilibre moral. Nous avions tous conclu que la crise était passée et nous avions, à tort, attribué cette guérison à notre amitié collective. Nous nous étions trompés. Si quelque chose de profond ne s'était pas produit au-dedans, sa sensibilité maladive ne se serait jamais accommodée de la nôtre, si tendre fut-elle. Elle avait retrouvé en sa conscience les principes qui font vivre, les principes de finalité, d'idéal, de devoir et de sanction, principes que l'on ne rait point impunément, pour le plaisir de la critique, d'un programme de vie, celui des peuples ou celui des individus, sans tout bouleverser.
J'ai là ces feuillets sous les yeux ce soir. Je suis bien tentée de les parcourir. Mais minuit sonne, je ne dois point prolonger mes veilles. Je l'ai promis à Jacques, lorsqu'aujourd'hui il a paru s'inquiéter de mes joues un peu pâles.
11 juin. J'ai remis ce matin les notes à Betty en présence de Germaine. Je l'ai remerciée en lui disant ce que j'avais trouvé là de réconfortant. Elle en fut tout émue et me dit alors avec simplicité
« Eh bien, Mad, c'est à ces notes que je dois ma santé morale et qui sait, peut-être le retour à la foi. »
À ces derniers mots, Alice Bernard s'approcha. Jacques aussi prêta l'oreille. Ce changement complet survenu en Germaine nous intéressait, car nous aimions sa droiture et nous avions senti que son scepticisme des derniers mois avait été pour beaucoup dans sa crise de neurasthénie. Sans respect humain, devant nous tous, elle continua sa confession.
« Je crois de nouveau à un idéal, ajouta-t-elle, à un idéal qui est en moi, que je puis retrouver, qui stimule mes efforts, qui donne une raison à ma vie. Il est encore vague comme celui des philosophes. Le jour où il deviendra précis, vivant, concret, je reconnaîtrai le Christ et je dirai que le Christ vit en moi. Et j'aurai vraiment la vie.
En attendant, c'en est fini des séductions de la brillante critique. Je vomis ces démolisseurs qui ne savent rien rebâtir avec leur poussière, sinon de la matière, c'est-à-dire de la poussière encore et rien que de la poussière. Et pour clore cette année de douloureuses expériences, savez-vous ce qu'il faudrait fonder ? Une ligue, mes amis, une ligue des idéalistes. Nous réagirions ainsi contre le courant destructeur de la critique qui entraîne tant de nos camarades et nous formerions la première digue qui l'arrêterait. Il faut coûte que coûte qu'il reste quelque chose des idées qui auront germé dans nos cerveaux d'étudiants pendant la Grande Guerre. Il faut que l'on sache que, si nous n'avons point versé notre sang, nous avons apporté quelques pierres qui permettront, dans la cité nouvelle, de rebâtir les édifices en ruine. 14 juin. Encore une promenade au bois aujourd'hui, du grand air, de la griserie. Mais n'y a-t-il pas une limite à imposer à cette force qui nous entraîne et dont nous ne serons peut-être bientôt plus les maîtres ? Et puis notre examen approche, 10 jours encore. Est-ce vraiment la préparation qu'il nous faut ? Jacques prétend qu'il n'en est pas de meilleur, il n'a jamais mieux travaillé. Quant à moi, si je veux être sincère, il me semble que je suis bien distraite. Ma pensée m'échappe souvent, car le rêve me séduit. Oui, je le sens bien. Je rêve beaucoup plus que Jacques. Toujours la grande différence entre nous, de l'idéaliste et du réaliste. Jacques réalise en partie son amour, il jouit du présent. Moi, je rêve toujours de mieux, je vis d'espoir. L'amour va sans cesse élargissant son vol vers un avenir où je trouverai toujours plus de beauté et enfin la durée. Le présent ne m'intéresse pas. Voilà pourquoi mon imagination erre sans cesse dans un monde inconnu qu'elle crée à sa guise, et pendant ce temps ma raison sommeille. Adieu la philosophie. 16 juin. Nous avons pris une grande résolution aujourd'hui en sortant de notre cours. Durant cette dernière semaine, nous ne nous verrons pas. Jacques a compris qu'il me fallait du calme et du recueillement. Nous abandonnerons aussi la Sorbonne, elle ne nous apprendra plus rien. D'ailleurs, nous a-t-elle vraiment appris quelque chose ? Je vais entreprendre cette semaine la révision générale de mes notes, mais je crains fort de n'y rien trouver que de morcelé et d'amorphe. 23 juin. Ma révision est faite. Je ne m'étais pas trompée. J'ai vécu toute cette semaine penchée sur mes cahiers, et j'ai reconnu l'inanité de cet enseignement, tout de détails, d'érudition, de notes bibliographiques, mais sans unité. Pas une pensée originale et profonde, de la subtilité, de la poussière de pensée, s'il est possible de s'exprimer ainsi, et tout cela conduit au dispersement, à l'émiettement de l'âme, alors que l'unité est sa seule condition de vie. Alors, découragé, je suis retourné à mes premières amours, à mes vieux cahiers, au cours de la lampe, si simple, si lumineux. Sans doute il n'est pas surchargé de textes, de notes d'érudition. Il est l'expression d'une âme claire et haute. Il ne tient peut-être pas assez compte de la pensée moderne, mais il donne des directions à la pensée tout court. Que n'y suis-je revenu plus tôt, au lieu de perdre mon temps à ces détails que je n'ai pas retenus. 24 juin. Me voilà à la veille du grand jour. J'écrivais la même phrase il y a 8 mois avant mon entrée à la Sorbonne. Devant la science, j'étais alors pleine d'illusions. Elles sont tombées aujourd'hui. Il m'en est venu de nouvelles, celles de l'amour. Quelle est leur destinée ? J'ai reçu de Jacques tout à l'heure un petit mot délicieux de calme, de confiante tendresse. Sa volonté s'affirme, je commence à sentir en lui un véritable appui. Mon Dieu, écoutez bien ce soir mon ardente prière. J'abandonne entre vos mains nos deux destinées. Elles n'ont de raison d'être qu'en vous et par vous, qui êtes la raison même. Vous connaissez nos désirs humains, qu'ils se réalisent s'ils sont conformes à votre volonté. Succès dans l'épreuve de l'esprit, succès dans cette épreuve de ma sensibilité, où avec beaucoup d'inexpérience, mais tant de sincérité, j'ai mis pleinement mon cœur. 25 juin. Nous sommes contents, la version est comprise. C'était un beau passage sur l'immortalité de l'âme de Cicéron. Jacques, le plus fort latiniste de la bande, nous a soumis sa traduction. Elle ne diffère pas beaucoup de la mienne. Méruel, ce brave Méruel, s'en tire avec deux contresens, c'est splendide pour lui. Jacques est venu avec moi jusqu'à la maison. Pour la première fois de ma vie, je crois, j'ai eu un petit mouvement de mauvaise humeur contre les miens. Je leur en voulais de leur impatience à m'attendre, car pour eux j'étais obligé de quitter Jacques plus tôt que je ne l'aurais désiré. Et cependant, quand j'ai revu autour de la table ces figures inquiètes, attendries, de papa, de maman, des chères petites, je me suis reproché ce mouvement d'égoïsme. Quel foyer de tendresse brûlant j'ai là près de moi, et depuis que l'amour m'emporte, j'oublie de m'y réchauffer. 26 juin, deuxième jour d'examen. Hélas, je suis mécontente de mon épreuve d'aujourd'hui. Je ne sais par quelle aberration d'esprit j'ai choisi le sujet de psychologie, alors qu'il eût été si facile pour moi de traiter le sujet de morale. Il était magnifique. L'obligation morale, la définir, les différentes explications qui en ont été données. Et voilà qu'en lisant cette dernière question, j'ai craint de me tromper dans l'exposé des systèmes, car il y avait un peu de confusion dans mes idées. J'ai vécu une vie intellectuelle et affective si intense tous ces jours-ci que je pouvais redouter un déficit du côté des forces nerveuses. En traitant l'autre sujet, le mécanisme de l'attention, je me faisais l'écho de ce que j'avais entendu, mais encore aurait-il fallu être sûr de l'avoir bien retenu. En tout cas, c'était une erreur. Tous me l'ont dit à la sortie. Je ne pouvais rien donner en cette matière de vraiment personnel, rien de mon moi profond. Et en réalité, lorsque j'y songe, je n'ai fait qu'un devoir banal. Est-ce un échec qui m'attend? Moi, la meilleure élève du collège Stahl, la meilleure élève de Mademoiselle Claire? Non, ce n'est pas possible. Il faut que je réagisse. 27 juin, troisième jour d'examen. Le coup d'hier a porté. Je me suis trouvée au-dessous de ma tâche aujourd'hui. J'ai été prise d'une sorte de découragement qui m'enlevait toute confiance en mes appréciations, disons plutôt en mes souvenirs. La théorie de l'amour dans Platon et Spinoza, tel était notre sujet. Riche en matière, mais où il fallait pourtant des précisions, j'en ai trouvé fort peu. Mon esprit inquiet hésitait pour chaque idée, incapable de discerner si j'en étais l'auteur ou bien s'il fallait y étiqueter le nom de Spinoza ou celui de Platon. Jacques, à qui j'ai confié mes craintes, m'a consolé. « Mad, ne vous tourmentez pas, » m'a-t-il dit. « Votre infériorité d'aujourd'hui fera votre supériorité de demain. Vous vivez si profondément les idées philosophiques que vous les démarquez, mais soyez sans crainte, un maître intelligent saura les reconnaître. D'ailleurs, dans l'épreuve de demain, l'épreuve de morale, puisque vous avez choisi cette partie de la philosophie comme matière à option, vous triompherez sans aucun doute. » Et puis, ajouta-t-il très doucement, en me baisant la main, « quoi qu'il arrive, je suis là. Encore quelques jours et je parlerai à mon père, et notre bonheur sera assuré. » Quatrième jour d'examen. J'ai mieux travaillé aujourd'hui. Je me sentais plus à l'aise dans cette question du fondement de la morale, que j'avais admirablement comprise grâce au précieux cours que nous avait prêté Germaine. Fondement d'expérience, fondement d'intuition, il y a des deux dans cette art science de la morale. Et pour le montrer, il suffit de descendre profondément en soi-même et d'y délimiter le domaine respectif de la conscience individuelle et celui de la conscience sociale. Il me semble que j'ai pu dire des choses vraies et personnelles, mais que vaudra dans le total cette note, en supposant même qu'elle soit bonne? Une grande lassitude s'est emparée de moi. L'avenir m'apparaît sous un jour sombre. Et pourtant rien n'est changé. Jacques n'a jamais été aussi courageux, aussi délicat, aussi tendre. Admettons même un échec. Eh bien, le malheur ne serait pas irréparable. Jacques sans doute sera reçu, c'est l'essentiel. Il partira pour son poste et je travaillerai en l'attendant. Que dois-je répondre à ce mot, où il demande à me revoir ici, dans ma chambre, après-demain? Je crois qu'il faut courageusement y renoncer. Nous avons encore devant nous une semaine d'attente avant les épreuves orales. La liste des admissions paraîtra le 7. Recueillons-nous encore, tendons ce dernier effort, pour que Jacques garde sa volonté intègre. Il le faut, car il doit non seulement emporter son examen, mais emporter le consentement de son père à notre bonheur de demain. Je vais lui écrire longuement, Mon âme rejoindra ainsi la sienne, sans le secours des caresses. C'est moins doux, mais c'est plus sage. Nous sommes à la dernière minute avant le grand assaut. Pour bondir avec plus de force, il faut que le soldat se recueille et ramasse toute sa vie en soi. 6 juillet. Toute une semaine de recueillement. J'ai vécu comme une petite nonne, m'imposant la messe tous les matins, réglant ma vie minute par minute, vivant étrangère à ceux qui m'entouraient. Les petites mêmes ont respecté la solitude de ma cellule. Elles savent que Mad prépare son examen. C'est à peine si 2 ou 3 fois pendant la journée, Jacqueline s'est risquée à passer sa petite tête curieuse par la porte en criant « Travaille bien, Mad, tu seras reçue !» Et Geneviève est venue m'embrasser. Je n'ai pas distrait un instant ma pensée de mon travail. Mon cœur a dormi, confiant, car il sait qu'un autre veille. Et pourtant, je n'irai point demain à la Sorbonne chercher les résultats. Je ne m'en sens pas la force. Jacques ira relever la liste dans l'après-midi, et c'est à Saint-Étienne-du-Mont, tout près de Sainte-Geneviève, que je l'attendrai. 7 juillet. Quelle nuit j'ai passée! Jamais je n'ai éprouvé d'angoisse aussi folle. D'affreux cauchemars me hantaient. J'errais dans la nuit, dans une affreuse solitude, puis le sol manquait sous mes pas et je me réveillais dans le violent effort que je faisais pour ne pas tomber. Mais le réveil était aussi pénible que le rêve. Je ne pensais qu'à un échec, et tout ce qu'il y avait dans mon inconscient d'idées sombres, de sentiments tristes, remontait dans mon âme incapable de se défendre contre cette irruption de noirs pressentiments. Je ne m'étais pas trompée. L'échec est là. Jacques est venu me l'annoncer, comme je le lui avais demandé, à Saint-Étienne-du-Mont. Oh, ces heures mortelles que j'ai vécues à côté de la petite chapelle, ce supplice que j'endurais à chaque pas que j'entendais résonner sur les dalles de l'église déserte, croyant voir apparaître Jacques, et m'apprêtant à lire sur sa figure mobile son impression de contentement ou de mécontentement. Comme par un fait exprès, la liste ne parut qu'à 4 heures, et dès 2 heures j'étais à mon poste. Aussi, lorsque Jacques apparut, j'étais à bout de force. J'avais trop souffert d'émotions vaines. Je ne pus rien lui dire, et lui, sans oser me regarder, murmura « J'y suis, mais non pas vous, Mad. Mais qu'importe. » Et il saisit le prie-Dieu à côté de moi, se mit à genoux, prit ma main, tandis que je pleurais, enfin soulagé. « C'est mieux ainsi, Mad, » fit-il encore. « Je ne veux pas que vous travailliez. Je travaillerai pour 2. D'ailleurs, vous êtes fatigué, et c'est la seule raison de votre échec. Il faut vous reposer. N'allez pas à la Sorbonne suivre les oraux, ce serait pour vous un crève-cœur inutile. Méruel, Betty et Germaine sont sur la liste. La pauvre Alice, comme vous, est sur le carreau. Samedi prochain, Mad, je viendrai dans votre petite chambre. J'aurai parlé à mon père. D'ici là, chaque soir, vous aurez un mot de moi qui vous mettra au courant de mes épreuves. Soyez confiante. Vivez d'espérance. Vivez aussi de votre cœur religieux. Vous en avez besoin. » Comme Jacques me l'a si bien dit, il faut que dans mon âme croyante je cherche la force avec l'espérance. Mais contrairement à ce qu'il pense, je n'abdiquerai point ma tâche. Je m'y remettrai au contraire, avec plus de calme, plus de méthode, et seul. Le travail de la pensée demande la solitude. Il arrive une heure où il ne faut plus acquérir, mais organiser intérieurement ce que l'on a entassé, et cette dernière étape que j'ai brûlée. Pendant ces vacances, je l'accomplirai. Plus de camarades, plus de Jacques, plus de Sorbonne. Je ferai du vrai travail, car ce sera mon travail sur ma propre pensée. Et en octobre, j'aurai réparé cet échec. 13 juillet. J'ai reçu un télégramme de Jacques. Quelle joie! Il est reçu avec mention bien, Betty et Méruel sans mention, et Germaine avec assez bien. Vite, que je leur écrive à tous mes chaudes félicitations. Et Jacques vient demain. Ce soir même, il parle à son père, prévenu par son fils qu'il aurait à discuter des choses graves touchant son avenir. 15 juillet. Tout est fini. J'ai tout perdu. Mon rêve d'ambition, mon rêve d'amour. Quelques jours d'orage les ont jetés par terre. Comme le nuage de grêle couche un beau champ d'épis mûrs. Et, dans cet anéantissement complet de ce qui fut ma vie toute cette année, je ne me révolte pas. Mon cœur ne garde ni amertume, ni haine. Il souffre infiniment. Jacques est donc venu hier soir, comme il me l'avait promis, mais il n'avait plus dans ses yeux cette expression douce et forte qui, ces derniers jours, me donnait tant de confiance. Dès son entrée, j'ai ressenti cette émotion de tout mon être contractée douloureusement, signe précurseur de quelque grande souffrance. Elle garda d'abord le silence, fuyant mon regard, où sans doute il craignait de lire une question pressante, quoique muette. Il m'embrassa la main, s'assit près de moi, puis, au bout d'un instant, « Mad, me dit-il, quoi qu'il arrive, aurez-vous toujours foi en moi ? Je n'ai point réussi auprès de mon père. Il ne m'a point repoussé, mais il s'est obstinément retranché derrière la volonté de ma mère, qui est intervenue dans le débat pour tout briser. En réponse à mes arguments, à mon éloquence passionnée, elle n'a trouvé que ses préjugés bourgeois, car la guerre ne les a point ébranlés. « La passion n'a qu'un temps, répétait-elle, et la femme vieillit vite lorsqu'elle travaille et vit dans un intérieur sans argent. Non, mon fils unique n'ira point compromettre ses chances de bonheur dans une telle impasse. » Et elle ajouta, toute rouge de colère en regardant mon père, « À une telle folie, nous ne donnerons jamais notre consentement, ni ton père, ni moi. » Et mon père s'est tu. « Alors, Mad, il faut attendre, attendre encore. Jusqu'à quand ? Et je vous aime, et je vais partir dans quelques jours, pour de longs mois peut-être. Je serai loin de vous, je n'aurai plus pour me soutenir la tendresse de votre regard où je trouve tant de force. Oh, laissez-moi m'en enivrer encore. » Et ses yeux plongèrent dans les miens, mais si étranges, si différents de ceux que j'aimais. Ils avaient cette expression presque cruelle, que j'avais saisi une ou deux fois, comme dans un éclair, dans un moment de passion. Jacques n'était plus son maître, et moi-même, après ces journées de terribles secousses, je n'avais plus aucune force de réaction. J'entendais à demi ces mots d'amour qui me trompaient, et le trompaient lui-même. Mais à quoi bon noter tous les détails de cette scène? Ils me font mal à revivre. Il vaut mieux les ensevelir dans l'oubli. Jacques, emporté par la passion, désespéré à l'idée d'une séparation imminente, s'est laissé dominer par cette pensée folle que je devais lui appartenir. Il aurait peut-être surpris ma tendresse et mon émotion. Si tout mon être moral, lentement édifié dans le passé religieux de ma race, dans le présent vertueux du foyer familial et dans l'effort de mon travail quotidien, ne se fût révolté contre cette instinctive amoureuse que j'étais dans l'inconscient, comme toute autre femme. Je ne sais quelle force mystérieuse me fit alors réagir. Je m'arrachai brusquement de ses bras, et sans discussion, d'une voix impérative et brusque, je lui dis un définitif adieu. Il est parti dans un accès de désespoir et de rage, me reprochant mes préjugés bourgeois, mon manque de générosité, comme si c'était préjugé. Cette lutte douloureuse d'une conscience se dressant contre l'instinct obscur qui sournoisement la mène, comme si le sacrifice conscient, voulu, ne vous déchirait pas tout l'être. Jacques, mon ami, mon bien-aimé, pourquoi êtes-vous parti sans essayer de me comprendre? Nous pouvions vivre encore un amour pur, de tendresse et d'espérance, qui chaque jour dans le sacrifice eût grandi, se fût ennobli. Vous n'avez pas su attendre, et moi, je n'ai pas su pardonner. Quel est le plus coupable? Je ne sais plus. Je ne sais qu'une chose, c'est que je souffre affreusement. Et que vous ne serez plus là, plus jamais, pour partager ma souffrance. La plume s'est échappée de mes mains. J'ai pleuré, j'ai rêvé, j'ai prié. Combien de temps? La nuit était venue quand j'ai repris conscience de la réalité. Une voix se faisait entendre en moi, lointaine d'abord comme un écho, c'était celle de ma conscience, préludant vaguement au divin enseignement. Puis ce fut la voix claire du maître. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Oui, mon sacrifice, en dépit des apparences, ne serait pas inutile. J'en avais pour garant la divine parole. Ma souffrance acceptée à son exemple en pleine conscience me faisait plus grande, elle m'élevait, et avec moi peut-être toutes celles qui me suivraient dans cette voie du renoncement. C'est bien la voie douloureuse en effet que nous allions suivre, nous les femmes nouvelles, dans ce siècle qui semble offrir toutes les libertés, mais où tout ce qui vaut moralement s'achète au prix de formidables efforts. Mon Dieu, qu'elle ne soit point vaine ces larmes que me coûte la fidélité à votre loi, la fidélité à l'idéal, que la femme, sans faillir à sa nature, ne doit jamais trahir. On frappe à la porte. Aussitôt elle s'ouvre sans que j'aie le temps de répondre, et une petite voix fraîche s'écrie. « C'est moi, Mad. Ne me gronde pas si je te dérange. Je t'apporte une bonne nouvelle, une lettre où il y a écrit « Urgent » sur l'enveloppe. » Jacqueline en même temps se précipitait vers moi, me tendant la chère missive. Elle m'était chère, en effet, c'était la promesse d'un rayon de lumière dans les jours gris du renoncement. Mademoiselle Claire m'écrivait. « Petite Mad, je suis libre et veux partir me reposer pas trop loin de Paris, pas seule non plus. En temps de guerre, il ne faut pas laisser nos forces se disperser. Voulez-vous venir avec moi, vous et Alice Bernard, les deux pauvres naufragés? J'espérais vous voir aujourd'hui. Pourquoi n'êtes-vous pas venu à moi au moment de l'épreuve ?» Vite, une réponse affirmative, et je télégraphie pour retenir nos trois chambres à Barbizon, au milieu de la belle forêt aux arbres séculaires. Nous partirons jeudi. Je vous embrasse tendrement. C'était la réponse de la Providence, à mon cœur meurtri, mais non sans espérance. Fin de la section 15, enregistrée par Pauline Latournerie. Fin de La science et l'amour, par Léontine Zanta.